Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Devant la clinique Je sais tout, il flotte un parfum de révolte. Nos 3 docteurs sont en conciliabule. Ils doivent se prononcer sur un sujet qui n'est pas évident à disséquer. Mabuse, House et Jekyll vont devoir nous dire si, d'après eux, les experts en tout, la propriété, c'est le vol. Cette phrase est sortie d'un siècle où tout était possible, le 19e. Elle vient d'un philosophe, Pierre-Joseph Proudhon. Nos docteurs vont se servir de sa plus célèbre phrase, mais que connaît-on de la pensée de Pierre-Joseph Proudhon de nos jours, plus de 200 ans après sa naissance, le 15 janvier 1809 ? Bah, une seule formule, la propriété, c'est le vol, mais guère plus. Celui que Charles-Augustin Sainte-Beuve décriait comme le plus grand prosateur de son temps ou Georges Sorel comme le plus éminent philosophe français du XIXe siècle ne trouve plus asile que dans les librairies libertaires et sur les rayonnages d'érudits. À la différence d'autres personnes et écrivains de la même époque, je ne sais pas moi, Karl Marx, Auguste Comte, Jules Michelet, Victor Hugo, Alexis de Tocqueville. Nos spécialistes du bistouri nous diront peut-être ce qu'ils en pensent de cette mise à l'écart. Mais surtout, ils devront, après avoir fermé le coffre-fort de la clinique et s'être partagé les dividendes, pourquoi pourrions-nous encore être convaincus que la propriété tient du braquage ? Il est vrai que quand, pour tout bagage, on a la fortune de ses ancêtres, il semble pour le moins scandaleux que cela puisse suffire pour devenir héritier de tous les biens acquis par d'autres que soi. L'héritage, voilà bien une injustice criante qui n'a pas, et loin de là, était effacé par nos républiques hypocrites. Posséder, amasser et léguer, c'est la philosophie du bon citoyen. J'espère que nos docteurs, malgré leurs contradictions, nous éclaireront sur la question. Liberté, égalité et fraternité, cette formule est gravée sur tous les frontons des monuments républicains. On aurait pu sans doute ajouter propriété. Le sujet vaut la peine d'une autopsie. Laissons-les faire. Nos courageux docteurs Mabuse, comme d'habitude, c'est lui qui lance la première attaque.
La propriété, c'est le vol. Sacré Proudhon. Décidément, on peut rire de tout, même avec un des pères de l'anarchisme, dont on connaît surtout son mépris pour les femmes. Camus pensait, lui, que la propriété, c'est le meurtre. Sous-entendu, c'est la mort de l'homme. Dans une société où l'homme n'existe que par ce qu'il possède matériellement, l'individualisme en est forcément la conséquence et la pseudo-solidarité, sa justification. En effet, les concepts d'ascension sociale, de promotion, de réussite sont basés sur la possibilité de posséder plus et où l'argent serait le moyen de satisfaire cette obsession innée et naturelle, donc normale, donc juste. On voit bien le piège dans lequel le système nous enferme et où, sous des discours expliquant la nécessité de gérer collectivement les problèmes, le comportement des citoyens se veut individuel et consumériste, même au-delà parfois de ses capacités financières. Vous n'êtes pas assez propriétaire, endettez-vous. Autrement dit, plus vous voulez être indépendant par ce que vous possédez, plus vous êtes dépendant du système. Un véritable piège dont il semble difficile de sortir. Beaucoup de philosophes ont dénoncé cet état de choses. Des cyniques, il y a plus de 20 siècles, aux utopistes du 19e siècle, comme William Morris, par exemple, ou même Marx. Certains ont prôné l'humilité, et donc la soumission, d'autres le renversement complet et radical, en souhaitant que chacun produise selon ses capacités et consomme selon ses besoins. Mais tous ont saisi ce rapport pervers de l'existence des individus à la propriété matérielle. Alors, la propriété serait-elle le vol à la Proudhon ou le meurtre à la Camus ? Je pense que Camus avait raison. La propriété n'est pas la justification de l'existence de l'homme, elle est la raison de la destruction de l'humanité à travers la guerre, au sens général, qu'elle soit sociale ou politique, et où les individus, notamment les plus pauvres, en sont toujours les victimes. La prise de conscience de cet état de fait est la seule propriété qui vaille, celle de la connaissance. La gestion de l'ignorance est l'arme absolue de la permanence du système et la propriété, la partie émergée de l'iceberg.
Ah, voilà bien un réquisitoire. Nous allons passer maintenant à notre deuxième docteur qui sort tranquillement de la salle d'opération. Voilà notre docteur House. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense de cette propriété qui serait peut-être le vol ?
Non, c'est pas peut-être. La propriété, c'est du vol. C'est la remarquable conclusion de la grande histoire de l'antagonisme ancestral du capital et du travail. La propriété, c'est du vol. Une citation de Pierre-Joseph Proudhon dans un livre paru en 1840, Qu'est-ce que la propriété ? Citation dirigée contre les grands propriétaires terriens qui vivaient de rente sur la sueur des paysans. La propriété est asservissement. En raccourci, après avoir défendu le mutualisme, Proudhon gagnera ses galons de socialiste libertaire, critique du capitalisme repoussant le communisme, pour déclarer quelques 20 ans plus tard « La propriété, source d'inégalité, est la base de la liberté ». En quelque sorte, c'était un précurseur du socialisme libéral. Je retiendrai simplement, selon le principe que les premières impressions sont toujours les meilleures, que la propriété, c'est du vol. La propriété, laissons la propriété du fruit du travail, jouissance. Mais regardons plus attentivement la propriété, instrument du travail, bien de production, source de production, qu'elle soit détenue individuellement ou collectivement, qu'elle se décline en hectares, en machine, en création ou en action, qu'elle soit matérielle ou intellectuelle. La propriété, ça reste du vol. Et il conviendrait d'interdire la rémunération du capital, ou pis, limiter sa rémunération à son renouvellement. La propriété capitale, qui exige une rémunération a fortiori surdimensionnée, est un vol au détriment de ceux qui la valorisent. La rémunération surdimensionnée de la propriété n'est en rien créatrice de richesse, de développement, d'amélioration sociale. La propriété capitale, dans ce contexte, n'est en rien libératrice ou émancipatrice. Au contraire, elle est cause d'instabilité sociale, de tension, de guerre. Je citerai Léon Blum. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence.
Alors, un deuxième réquisitoire aussi vraiment virulent. Donc, cette propriété commence vraiment à devenir le vol. Mais il nous reste un docteur, notre petit docteur Jekyll, qui lui arrive tranquillement. Peut-être a-t-il une autre vision de cette propriété et de ce soi-disant vol.
La propriété, c'est le vol. Ah, que voilà, pardon, un joli slogan qui croit tout dire quand il ne dit rien. Il frise même la mystification intellectuelle. Ne pose pas la question qu'il faudrait, à savoir pourquoi la propriété existe-t-elle. Le reste tient seulement du comment et relève des historiens qui revendiquent le matérialisme historique ou le combattent, ce qui revient au même. Or, pourquoi la propriété existe-t-elle ? Et pourquoi ? Je vais vous le dire, comme s'est inventé le petit Nicolas guignolisé. Et il n'est pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Il suffit de relire, enfin plutôt de lire, pour l'immense majorité de ceux qui se disent citoyens, de relire donc le Capital de Marx. Dans le livre 1, chapitre 1, il énonce ce qu'il appelle la théorie de la valeur. Et cette valeur est, selon lui, la base, le fondement du système capitaliste. Je résume. Aux origines était le troc. Tout allait fort bien, si ce n'est que c'était pas très pratique. Alors quelques Crésus conçurent un outil, la monnaie, permettant de faciliter les échanges. Et bien sûr, une poignée d'imbéciles s'ingénièrent à promouvoir la division du travail au point que plus personne ne put vivre du sien, pas même les rois. Pour ces derniers, point de souci, ils eurent vite fait d'inventer l'impôt. Bref, à partir de là, chacun dut acheter ce qu'il n'était plus capable de produire par lui-même. Et qui dit acheter, dit devenir propriétaire. Et les plus malins de se mettre à produire plus pour acheter plus. Ça s'appelle la croissance. Or, quelques-uns profitèrent de l'aubaine en s'appropriant notamment les moyens de production. et de conceptualiser ce qu'il nomme le bénéfice ou la rémunération du risque en investissant, enfin autrement dit le profit, enfin, c'est-à-dire la plus-value génératrice de l'exploitation de l'homme par l'homme et inversement. Et voilà Lénine qui synthétise le tout en affirmant que le sens de l'histoire résidait dans l'embourgeoisement de la classe ouvrière. Et mon prolo, de rêver de devenir propriétaire. Propriétaire de quoi ? De tout, de rien, de n'importe quoi. Mais propriétaire. Il ne manquait plus que d'inventer la démocratie libérale et ses partis politiques qui seraient la base de la vie politique ici-bas. Alors me direz-vous, même les partis politiques prétendirent devenir propriétaires. De quoi ? Mais simplement des voix de ses militants et sympathisants. Et le plus grave est que cela a fonctionné peu ou prou durant des décennies. Certes, il fallut de plus en plus corrompre l'électeur. Mais son prix restait modeste. Un emploi, un logement, une médaille. Et mon électeur de s'affranchir ces temps-ci. Il n'entend plus être la propriété de qui que ce soit. Bien au contraire. Et de déclarer aux politiques la propriété, c'est le vol. Nom de Dieu, voilà que la boucle est bouclée. Ceinture pour les apprentis sorciers de la politique dite démocratique. Avec quel thermomètre fragmentaire allons-nous mesurer la chose ? Avec le bulletin de vote Sorel lors des prochaines élections municipales à Montpellier. Rendez-vous le 23 mars, ce sera le lendemain du 46e anniversaire de mai 68, lorsque les gauchistes disaient de la chose, autrement en psalmodiant, élection piège à con. Ah Georges, si tu m'entends.
Ah, alors là, on est revenu un petit peu dans notre giron local, montpelliérain. Mais avant, nous avons eu droit à une brillante démonstration de notre docteur Jekyll, citant Marx et vous invitant à le lire, car c'est vrai, docteur, je crois que très peu de gens ont lu Karl Marx.
Oui, mais visiblement, c'est plus dans les librairies non plus.
Il y a tellement de gens qui le lisent que c'est pas la peine qu'ils le lisent.
Donc, que tout le monde en parle, en fait. Voilà, Karl Marx, c'est quelqu'un que tout le monde parle, mais quasiment personne ne l'a lu.
Mais comme aux États-Unis, tout le monde confond Karl avec Groucho, quoi.
D'accord. Bon, alors on va revenir au thème de notre émission, la propriété sur le vol. Alors nous avons eu trois réquisitoires, en fait. Hein, personne n'a pris la défense, quand même, de la propriété. Mais le docteur Jekyll a trouvé une variante avec ces partis politiques qui s'appropriaient les électeurs. Ça, c'était une idée originale.
Oui, il n'y a encore pas si longtemps, on considérait que quand tel parti donner une consigne de vote. En gros, si le parti avait fait 20% au premier tour, il y avait quasiment 20% qui, au deuxième tour, respecterait la consigne de vote. Or, aujourd'hui, ni à droite, ni à gauche, ni au milieu, ce n'est vraiment plus le cas.
Il n'y avait plus
une tête. Ce n'est pas une question de propriété, hein. C'est simplement une question de servissement ou de conscience politique. Ou de déconscience politique.
Ah oui, non, mais, certains appellent ça la prise de conscience du prolétariat.
Je veux dire, ce n'est une propriété en rien.
Oui,
et ça n'a jamais été une propriété en rien. Ça a été simplement une base de confiance trahie.
Oui, alors Haus n'est pas tout à fait d'accord.
Ça revient au même. D'où l'élection, piège à con.
Alors ça, c'est encore Jekyll, vous avez compris. Maintenant, j'espère que vous écoutez cette petite émission de temps en temps. Vous commencez à cerner nos docteurs. Hein. Je pense que vous les reconnaissez sans que j'ai besoin de dire qui parle. Alors Haus a pris la défense, on va dire, de l'ouvrier sur le capital, sur le
non,
fait...
Je prends la différence, tout simplement, la défense.
Oui, du parti.
Non, je considère que la rémunération du capital aujourd'hui pèse sur la rémunération, effectivement, du monde salarié.
Je ne sais pas si vous connaissez le cousin de Haus, c'est le colonel Fabien.
Et à partir de ce moment-là, cette rémunération abusive est un vol, parce qu'effectivement, c'est le travail qui valorise la propriété. Alors qu'en fin de compte, ça se fait à son détriment.
Oui, là, c'est les dividendes qui va s'accumuler de façon...
Et là où le capitalisme est malin, je précise, je laisse la parole à d'autres, je précise que là où le capitalisme est malin, pour justifier la propriété, il a inventé la maison individuelle, les plans d'épargne par action.
La voiture automobile
la voiture. Non, mais encore, la voiture, c'est ce que j'appelle, moi, des propriétés de jouissance. Un toit, une voiture, une chemise.
Une femme.
Docteur Jekyll, s'il vous plaît. Godasse, bon.
Donc à partir de ce moment-là, mais dans la mesure où on parle de biens de production, de biens qui sont susceptibles d'avoir une rémunération, à partir de ce moment-là, là, il a été malin.
Voilà. Alors,
Il a créé la confusion dans les têtes, justement, sur ce qu'est la propriété. Parce qu'il y a propriété.
Mais c'est ça, dans le sens de ce que je disais, parce que la plus-value en matière politique, ben c'est quoi ? Ça s'appelle aussi le charcutage électoral. C'est-à-dire qu'avec 30% des voix, tu as 50% des sièges, par exemple. Donc, c'est la plus-value en termes politiques qui revient bien, donc bien au fait que la propriété, c'est bien le vol, surtout quand c'est les partis politiques qui sont. Ou s'ils estiment propriétaires.
Bon, dans la clinique, on a mis de côté les infirmières parce que le docteur Jekyll est bien chaud ce matin. Nous allons passer maintenant au docteur Mabuse qui, néanmoins, peut aussi avoir quelques regards sur ces infirmières qui passent de temps en temps devant nous. Mais, surtout, ce qui nous intéresse, c'est son opinion et est-ce qu'il diverge un petit peu des deux autres docteurs, Mabuse.
Oui, juste de point de vue tout à fait anecdotique par rapport à ce qu'il vient de dire sur les infirmières, je peux aimer une femme sans nécessairement vouloir la posséder. Donc, revenons à ce qui était dit. Moi, je suis intéressé par ce que disait Jekyll tout à l'heure, c'est-à-dire sur le pourquoi la propriété. Je pense que c'est une vraie question. Et donc, elle m'en amène une autre, qui est, est-ce qu'il est envisageable d'avoir un autre système que celui basé sur la propriété ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible d'avoir autre chose qu'une propriété conçue individuellement, hein, qu'il s'agisse de capitalistes ou éventuellement d'ouvriers endettés ou surendettés ? Ça, c'est une vraie question.
Ça s'appelle le communisme, la solution.
Je ne sais pas. Mais
là, il n'y a plus de propriété.
Moi, mon problème, c'est
est-ce
qu'il est possible de développer effectivement la société dans ce rapport production-consommation autrement qu'à travers un système plus ou moins capitaliste ? Et est-ce que la transformation du capitalisme à travers les siècles, telle qu'elle s'est produite, cette transformation, ne peut amener qu'à la situation dans laquelle on est actuellement ? C'est-à-dire avec une généralisation de l'échange. Tout à l'heure, Jekyll, citant Marx, effectivement, expliquait très très bien, par étapes, comment ce capitalisme s'est construit. Et moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il est possible d'envisager à l'échelle, non pas protectionniste à la Marine Le Pen, une société mondialisée qui vive autrement que sur les bases du capitalisme actuel ?
Si, c'est faisable.
Comment,
c'est, la question, c'est comment ? Mais je suis d'accord avec Jekyll, comment poser le principe de la propriété, c'est le vol, n'est pas une bonne proposition en soi. Elle ne répond pas à la question réelle. La question réelle, c'est plutôt celle que j'ai posée.
Le problème, c'est de remettre tout simplement en cause, non pas la propriété, c'est-à-dire la paire de chaussures ou la chemise, mais tout simplement de remettre en cause les moyens de production, c'est-à-dire à savoir la propriété d'une usine, des champs, des...
Oui, la terre à ceux qui la travaillent, c'est bien connu.
Mais c'est exactement ça. Mmh. Et donc, à partir de ce moment-là, si tu limites la rémunération du capital simplement à son renouvellement, à partir de ce moment-là, déjà, quelque part... Les fruits du travail sont mieux répartis
parce qu'ils ne peuvent pas l'entreprise. Par définition, s'ils sont pauvres, ils ne peuvent pas investir.
Ce que dit House, c'est que les pauvres investissent. Ils investissent leur force de travail quand ils peuvent.
Ils n'ont que ça à investir.
Bien sûr.
Et on leur donne tout simplement...
C'est les bourgeois contre les bras nus, quoi.
On leur donne, justement, à l'heure actuelle, on donne simplement aux salariés, je dirais, le fruit simplement de leur renouvellement de leur force de travail. Alors que ça devrait être le contraire. On devrait rétablir le capital simplement à la limite de son renouvellement.
Excusez-moi de vous interrompre, cher docteur House, et même les autres. On arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous avez lancé quand même quelques des pensées vers des directions intéressantes pour les auditeurs. On va être obligé d'arrêter cette émission. Peut-être un mot, Jekyll ?
Non, pas plus.
Alors écoutez.
Relisez le livre 1, chapitre 1 de Marc, le livre 2, chapitre 2, le livre 3, chapitre 3.
Non, ça fait trop. Livre 1, chapitre 1.
Non, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel.
Si conseil de lecture, relisez Camus, l'homme révolté.
Ah, voilà, une très bonne question, une très bonne suggestion de notre docteur Mabuse. Alors écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine, un samedi, et figurez-vous qu'entre vieux cons, on va parler des jeunes. Ça va pas être mal, je pense. Hein.
Ah non, mais un vieux con, comme disait Coluche, est plus intéressant qu'un jeune con parce que ça dure moins longtemps.
Alors, le sujet de notre prochaine émission sera donc les jeunes et le jeunisme. Alors là, entre vieux docteurs, on va y avoir de quoi parler. Alors, comme on dit à chaque fois, à samedi prochain pour les toutes dernières nouvelles de demain.
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite. mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Point neuf de terre.
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Point neuf de terre.
Alors, quoi de neuf, docteur ?